Just because you travel doesn't mean you can't keep your routine. The more obstacles travel puts between us and our well-being, the more we strive to work well. At Westin Hotels and Resorts, we're focused on empowering your well-being. With Westin Meetings, you work and feel your best with nutritious snacks and nourishing smoothies that give you the energy you need to power through any meeting. Don't leave your well-being behind. We give you the choice to get up or to rise. Search Westin online to find out more. Westin, let's rise.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata
Rousse à nous.
Rati, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football ne soupçonne même pas, qu'il ne pensera pas encore dans 6 mois. Vous appelez le 32-16 pour participer et venir nous donner votre vision du foot, votre avis, vos coups de cœur. Et avec nous ce soir pour analyser l'actualité du football, le fan numéro 1 d'Eli Manning, François Manardo.
Mais oui, qui va prendre sa retraite sans doute et malheureusement à la fin de cette année.
Et on parle de football
américain. Et le quarterback des Giants après 16 ans de bons et loyaux services et 2 Super Bowls.
Absolument. Le fan numéro 1 de Seamus Coleman, on l'a appris ces 2 derniers jours, Jonathan McCarty.
Salut les gars.
Et puis le fan numéro 1 de Ronald Zubar, puisqu'il lui a piqué sa place au New York Red Bull, Damien Perrinel.
Et ben, exactement, et c'est un honneur.
Est-ce que c'est un exploit de piquer la place de Ronald Zubar?
C'est un honneur, respectez Zoubi s'il vous plaît.
C'est pas un de tes plus grands exploits, Damien, je pense. Hein.
Non.
Alors, quand on parle de Zoubi, on pense pas à celui-là, mais bon, c'est.
On a eu 2 Zoubi clowns à Marseille, on a eu Ronald Zubar et Zoubi
Zareta. Je ne te laisse pas dire ça, Jonathan McCarty, s'il te plaît.
Ce soir dans l'After, on va vous parler de Coupe de France avec Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, et son futur adversaire, Guillaume Gonel, qui seront avec nous ensemble sur cette antenne pour échanger sur l'approche de cette rencontre. On posera aussi la question de l'avenir des équipes qui jouent le maintien. Toulouse et Nîmes sont-ils condamnés? Qui pour les accompagner via les barrages? On ira en Italie où le retour de Zlatan fait autant de bruit que l'incapacité de Milan à se renouveler. Et puis on parlera gros sous avec l'analyse d'un article paru récemment sur les salaires des joueurs. On fera un point sur le mercato évidemment, les dernières tendances du marché des transferts qui ouvrira le 1er janvier. Et puis on parlera de Première Ligue et on terminera avec le quiz de l'After. Voilà pour le programme complet de cette soirée. On va commencer évidemment avec ce face-à-face, cette interview croisée avec les entraîneurs d'Angers et de Dieppe. C'est le match de Coupe de France qui se jouera le dimanche 5 à 17h15 au stade des Vertus. Ils sont avec nous, les deux coachs, Stéphane Moulin, le coach du SCO d'Angers. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec
Bonsoir,
nous.
Stéphane.
Guillaume Gonel, coach du FC Dieppe, également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci Guillaume, merci à vous deux d'avoir accepté d'être là ensemble. Vous êtes des adversaires, vous serez des adversaires dans 8 jours à peine et vous allez vous affronter dans le cadre de ce tour de Coupe de France. Alors Stéphane Moulin, bravo d'abord pour votre belle première moitié de saison, 8e au classement, longtemps sur le podium. D'une manière générale, pour parler du SCO, ça valide une certaine continuité au sein du SCO?
Oui, tout à fait. Quand on démarre le championnat et qu'on s'appelle le SCO d'Angers en Ligue 1, on ne sait pas comment ça va se passer, et arriver à la trêve avec 28 points, pour nous, c'est une vraie satisfaction. On a été 7 fois sur le podium, donc évidemment, pour nous, c'est très très bien, et on est vraiment satisfait de notre première partie de saison. C'est de la continuité, de la régularité, donc voilà, on est heureux de vivre ces instants-là.
Dans cette continuité, il y a la formation, le recrutement aussi qui fonctionne à plein, avec un taux d'échec très, très réduit?
Il vaut mieux, parce qu'on n'a pas des moyens exceptionnels, donc il vaut mieux ne pas se tromper quand on fait des choix. Jusqu'à maintenant, on va dire que ça se passe plutôt bien dans ce domaine-là aussi. On connaît l'importance d'un recrutement dans une intersaison. On a perdu quand même 2 joueurs très très importants de notre équipe, que sont Flavien Tay et Jeffrey Nedelaide. Donc se retrouver là, actuellement là où on se trouve, avec quasiment nos 2 meilleurs joueurs qui nous ont quittés à l'intersaison, c'est une vraie performance.
Et une infirmerie qui a été bien chargée aussi, coach.
Ouais, surtout, surtout avant de jouer nos trois matchs dans la semaine, on a perdu beaucoup de joueurs dans le même secteur, notamment le secteur offensif. Et ça nous a vraiment pénalisé parce qu'on a été obligé de jouer quasiment avec les mêmes joueurs sur ces trois matchs. Et on a un petit peu tiré la langue dans ce domaine-là. On a eu du mal à marquer des buts. On a eu des occasions, on a manqué d'efficacité, surtout de fraîcheur. Qu'on a retrouvé un petit peu là en cette fin d'année.
Stéphane Moulin, vous êtes le coach du SCO d'Angers et Damien Périnel a une question pour vous.
Bonsoir coach. Bonsoir. Justement en parlant de recrutement, vous êtes allé chercher beaucoup du côté de Clermont ces dernières années avec Romain Seyss, Pierrick Capel, Pereira Lage. Est-ce que vous avez de nouveau des vues vers ce club-là éventuellement? Et j'ai entendu parler aussi d'un Sanoussi à Santa Clara et suivant le championnat portugais.
Tu veux recycler agent, Damien?
Voilà. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est un peu le cœur qui parle. Voilà.
Non, c'est vrai qu'on a, on a une bonne réussite avec les joueurs de Clermont et c'est un club qui travaille bien dans tous les domaines. Je connais particulièrement leur coach Pascal Gastien qui fait du bon travail, mais il y avait aussi du bon travail avant qu'il n'arrive. C'est vraiment un club qui sait aussi révéler des joueurs à son niveau et on n'a pas été déçus dans ce domaine-là. Alors évidemment, on suit toujours leur équipe, on essaie de voir s'il n'y a pas des joueurs qui pourraient nous intéresser, mais il faut que tout concorde, il faut que le joueur qui est un peu au-dessus nous intéresse dans le sens où on ait besoin de ce poste-là. On n'empile pas les joueurs, on essaye toujours dans notre objectif, c'est de faire venir un joueur pour lui donner sa chance, donc il faut que tout ça coïncide, il faut que ça tombe au bon moment, il faut que le joueur ne soit pas trop cher non plus, donc il y a tout un tas de circonstances qui font qu'on peut faire affaire ou pas. Et ces derniers temps, on a réussi des bons coups avec les ex-Clermontois, c'est vrai.
Stéphane Moulin, votre prochain adversaire en compétition officielle, ce sera donc le FC Dieppe. Et Guillaume Gonel, son coach, est avec nous. Guillaume Gonel, Dieppe est également 8e de son championnat. C'est le groupe J du National 3, mais c'est sur 14. Début de saison, donc un petit peu dans le ventre mou de ce groupe J. Cette Coupe de France, c'est une bouffée d'oxygène pour votre groupe, Guillaume?
Oui, clairement. Déjà pour tout footballeur amateur, là, on a l'opportunité d'être un petit peu sous les feux des projecteurs. Forcément que c'est pas courant pour nous, donc forcément qu'on profite de l'événement et c'est top pour tout footballeur amateur.
Justement, est-ce que ça redynamise un peu votre équipe après ce début de saison? Je le disais, 8e sur 14, sans garantie de maintien. C'est pas perdu non plus pour l'accession. J'ai vu que c'est relativement serré. Bref, ça donne des possibilités, des leviers pour vos joueurs.
Oui, clairement. Disons que le parcours en dehors en Coupe de France draine une dynamique, c'est-à-dire que forcément que chaque entraînement, les joueurs se donnent le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'être dans le groupe par rapport au match de Coupe de France. Donc forcément que la performance effectuée contre le RC Lens amène cette dynamique auprès des joueurs, cette cohésion, et ça a forcément un effet positif et sera forcément un effet positif par rapport au championnat par la suite.
Alors hier, Damien Périnel nous disait que ces matchs de coupe, ces premiers tours pour les joueurs pros, c'était un peu compliqué. On n'avait pas forcément envie de les jouer en fonction de l'affiche, du terrain, qu'il y avait une absence de motivation. Alors ma question, elle est double. Pour vous, Stéphane Moulin, et pour vous, Guillaume Gonel, respectivement coach du SCO d'Angers et de Dieppe, comment on gère l'excès de motivation à Dieppe avec peut-être trop d'engagement à l'entraînement, et comment on gère l'absence de motivation à Angers?
Qui commence?
Eh ben, Guillaume Gonel.
Après, l'excès de motivation, non, on n'en est pas là, Après, on sait très bien que ce match-là est important. Maintenant, c'est pas une fin en soi. Ça sera assurément une belle fête à Dieppe le 5 janvier. Mais non, on n'est pas non plus dans un excès de motivation. On a les pieds sur terre, on garde la tête froide. Et non, les joueurs sont mesurés et on fait pas n'importe quoi aux séances d'entraînement.
Inversement, Stéphane Moulin, vous arrivez à concerner des joueurs professionnels qui, en général, s'intéressent à cette Coupe de France quand ça commence à sentir les 16e, les 8e?
Mais en fait, il n'y a pas d'absence de motivation, il y a juste une motivation qui peut être moindre, mais je réfute ça complètement parce que c'est des matchs qui sont difficiles. Pourquoi ils sont difficiles? Parce que la période est difficile, on va reprendre lundi. Donc on a eu 8 jours de coupure, donc c'est une semaine qui va être un peu tronquée aussi avec le 1er janvier. Souvent on joue dans des stades et sur des terrains qui sont pas les mêmes qu'en Ligue 1 ou en Ligue 2. On joue contre un adversaire effectivement qui est surmotivé et je tenais à féliciter très sincèrement les Diepois pour leur exploit, avoir sorti quand même le leader de la Ligue 2, c'est pas rien. Et à nous ensuite de tout mettre en œuvre nous pour nous qualifier. On sait très bien que ce sera un match extrêmement difficile. Alors c'est vrai qu'on le dit ou qu'on le dit aux joueurs, on les prévient, mais parfois ils se rendent pas compte que sur un match dans le foot tout est possible. Et pourtant des exemples on en a vu énormément. Mais c'est la magie de la Coupe de France. Donc il faut que quand on joue contre des équipes qui nous sont supérieures, pour que ça passe parfois, il faut que l'équipe en face soit un peu moins forte, un peu moins concernée, et puis que nous on soit à notre meilleur niveau. Là c'est ce qui se passe dans le rapport de force avec les équipes amateurs. Et évidemment que c'est des belles histoires quand elles nous mettent dehors. C'est moins beau pour nous, mais c'est magnifique pour eux. Donc il faut. J'ai pas envie de faire partie des surprises, mais c'est ce qui rend aussi. Ces confrontations entre les pros et les amateurs hyper intéressantes et pleines d'émotions.
François Bernardo.
Oui, une question pour le coach Moulin. Bonsoir coach. Vous nous disiez justement que par rapport à votre classement en championnat, vous êtes un peu mieux que dans les temps de passage que vous espériez. En revanche, est-ce que le président Chavannes vous a fixé clairement un objectif par rapport aux coupes, puisqu'on parle de la Coupe de France ?
Non, on a une bonne habitude parce que
vous étiez finaliste à l'occasion du centenaire, ouais.
Que tous les 3 ans, il y a 6 ans, on était en demi-finale de la Coupe de France. Il y a 9 ans, on était en demi-finale de la Coupe de France. Il y a 6 ans, on était en demi-finale de la Coupe de France et ça fera 3 ans, on est en finale au Stade de France. Donc, si on pouvait garder cette régularité, ce serait bien. Non, il m'a pas fixé d'objectif pour la bonne et simple raison que la Coupe de France, c'est aléatoire. On est à Dieppe, on a nos chances comme eux ont des chances de passer parce que ça reste un match de coupe. Vous imaginez bien que si on était tombé au PSG en 32e de finale, nos chances seraient extrêmement réduites. Donc on ne donne pas la seule feuille de route, c'est de se maintenir en Ligue 1. Et après, évidemment, qu'on s'interdit rien, puisqu'il y a 3 ans, c'était la même chose. J'avais pas d'objectif particulier, mais nous sommes allés en finale. Donc on joue cette compétition avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Mais la coupe reste la coupe et c'est difficile de prévoir quoi que ce soit dans cette compétition.
Guillaume Gonnet, l'entraîneur de Dieppe, vous avez entendu Stéphane Moulin va dire à ses joueurs, attention les gars, sur un match, tout peut arriver, tout est possible. Est-ce que vous allez dire à vos joueurs, hey les gars, sur un match, tout est possible, tout peut arriver?
Bien entendu, déjà de notre côté, on sait très bien qu'il n'y aura pas cet effet de surprise. Il n'y aura pas cet effet de surprise parce que je connais un petit peu le coach Moulin que j'admire. Hein, je ne vais pas vous mentir, un coach de Ligue 1, qu'on reste aussi longtemps dans un club, une telle fidélité, c'est que c'est du boulot bien fait. Donc voilà, forcément, ça sera un honneur pour nous d'affronter cette équipe du SCO. Après, comme on l'a dit en début, c'est un match. C'est sur un match sec où il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau. Il faudra avoir également une partie de chance. Hein. Il faut pas se mentir. Il y aura forcément une partie de chance. Il faudra que le SCO soit dans un mauvais jour. Bon, il faudra que toutes les planètes soient alignées pour nous essayer de notre côté, tout du moins faire durer le match. Ce sera vraiment le discours que je vais tenir à mes joueurs. Il faut vraiment que le match dure dans le temps pour mettre un petit peu le doute à cette équipe d'Angers, essayer de durer, et après, je vous dis, sur un match, pourquoi pas. Mais une nouvelle fois, je vous dis, il n'y aura pas cet effet de surprise qu'il y a pu avoir contre Lens.
Guillaume Gonnel, une question de François Manardo.
Oui, coach, parce que bon, c'est évidemment, il y a beaucoup de respect, ça se sent, ça s'entend entre vous deux, mais bon, il va y avoir quand même un match, il faut qu'il y ait un qualifié au bout. Vous êtes une équipe qui n'est pas donnée favorite, évidemment. Toutefois, est-ce que sans travailler dans le secret, vous pouvez nous dire un petit peu comment vous préparez un petit peu les choses par rapport à cette équipe du SCO? Est-ce que vous allez vous focaliser sur un point en particulier, Santa Maria? Comment est-ce que vous comptez essayer de neutraliser les montées Naït Nouri? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces joueurs du SCO?
Après, je vais être franc avec vous pour rentrer dans le détail. c'est pas
sans trahir le secret, d'accord. Mais un peu.
Non, mais après, on va préparer le match de la manière la plus sérieuse, en étant méticuleux. Et comme on l'a fait contre le RC Lens, forcément qu'il y aura de la vidéo. Je vais pas vous mentir. Hein, il y aura de la vidéo, des retours sur terrain. Et oui, on essaiera de.
Pour vous, c'est Santa Maria la plaque tournante.
S'il y avait que lui, ce serait facile. Ça serait facile. Non, c'est une équipe complète, c'est un bloc équipe, c'est très difficile à bouger, ça défend fortement, ça court beaucoup, ça se projette très rapidement. C'est une équipe très, oui, c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien cette équipe-là, j'aime bien les valeurs qu'elle véhicule au quotidien. Au-delà de bons footballeurs, je pense que c'est des bons mecs. Donc, je vous dis, on aura fort à faire. On aura fort à faire sur ce match-là. Mais je vous dis, sur un match sec, tout est possible.
Je suis désolé, je ne peux pas poser la même question. Coach Moulin, je ne connais pas bien les joueurs à Dieppe.
Guillaume Gonel, justement, vous parlez de vidéo, vous parlez de ce qui va être fait. Est-ce que sur un match comme ça, où il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter de votre côté en termes de motivation, vous gardez finalement les habitudes qui sont celles d'un jour de match normal, ou est-ce que, étant donné l'adversaire, ça n'est pas possible et vous êtes obligé de faire des choses en plus, des choses en moins, de changer votre routine?
Non, on n'a pas voulu changer grand chose en fait. Non, on n'a pas perturbé les joueurs. Il y aura pas de mise au vert, il y aura pas de tout ça. La seule différence, c'est forcément qu'on a rajouté un entraînement dans la semaine en plus, mais rien de particulier. Je veux pas changer les habitudes des joueurs. On est des footballeurs amateurs, les mecs bossent, donc ils sont assez grands pour se prendre en charge d'eux-mêmes. Et je vous dis, j'ai des bons mecs, et ils se préparent de leur côté. Donc j'ai une confiance aveugle en eux. Il y a pas besoin de se retrouver la veille pour une mise au vert particulière.
Stéphane Moulin, est-ce que vous avez la sensation, vous qui dirigez une équipe professionnelle, ça reprend un peu une question que je posais tout à l'heure, mais je vous la pose différemment, que le charme, le fameux charme de la Coupe de France, est-ce que c'est une réalité pour le grand public et pour les petits poussets, mais un petit peu moins pour les pros?
Alors, disons qu'on, quand on est professionnel et qu'on joue une équipe amateur, on veut pas que le charme de la coupe opère évidemment, parce que sinon c'est nous les dindons et on n'a pas envie, mais encore une fois, moi j'étais de l'autre côté de la barrière et je sais que quand on rencontre une équipe professionnelle, eh bien c'est un moment de s'étalonner, un moment pour faire parler de soi, un moment pour créer un exploit. Et que tout ça, ben moi je suis heureux que ça existe parce que c'est ce qui fait le charme de cette compétition et la rencontre entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs me paraît extrêmement important et c'est pour ça que cette coupe est très appréciée et pour qu'elle soit encore plus appréciée, il faut qu'il y ait des surprises. Les gens attendent ça. Donc on sait pertinemment que si on fait partie des surprises, ce sera une mauvaise surprise pour nous. Et donc évidemment quand le coach dit qu'il n'y aura pas d'effet de surprise, on sait qu'ils ont éliminé le leader de la Ligue 2, on sait comment ça s'est passé. Voilà. Alors vous parliez de leur classement tout à l'heure, je crois qu'ils ont 3 matchs de retard quand même, donc faut quand même pas l'ignorer. Ça change quand même les choses en termes de classement. Non, ils ont une bonne équipe, c'est une bonne équipe qui a de la qualité, donc on s'est bien penché sur le sujet et sur le cas. On prendra ce match avec beaucoup beaucoup de sérieux.
Stéphane, comment on se procure des vidéos? Comment on travaille à la vidéo avec une équipe de ce niveau-là?
On a toujours l'habitude d'aller les voir.
Hein, c'est pas très loin, Timothée.
Non, mais malheureusement, le dernier match qui devait jouer en championnat au Havre a été reporté. Donc on n'a pas pu aller les voir. Donc bon, on s'est procuré les images de leur match. De toute façon, on aurait eu ces images-là. Et puis même, on a déjà commencé à décortiquer les images qu'on a pu récupérer sur leur championnat. Rien ne sera laissé au hasard. Maintenant, malgré tout ça, malgré toute la vidéo qu'ils vont faire, toute la vidéo qu'on va faire, ça se jouera sur le rectangle vert. Et c'est de là que va sortir la vérité, comme d'habitude.
Guillaume, on imagine que c'est un peu plus facile de se procurer des vidéos de matchs du SCO. Vous avez choisi quoi? Les matchs où le SCO avait été le meilleur ou justement le match où le SCO avait été mis en difficulté pour pointer là où votre équipe de Dieppe pourrait faire mal?
Bah déjà, je vais à court terme. Déjà, je me suis rendu à la Beaujoire. Je vais être franc avec vous. Je n'étais pas obligé de le dire, mais je vous le dis. On s'est rendu à la Beaujoire avec mon collaborateur là. Donc, on a suivi le match des tribunes. Après, forcément, que c'est plus facile de notre côté d'avoir des vidéos. Donc, forcément, j'ai regardé le match de Monaco, j'ai regardé le match de Marseille. À travers ces trois matchs-là, forcément, qu'on peut ressentir des principes de jeu. On peut ressentir forcément les points forts de cette équipe. J'ai vu notamment, je pense que contre Monaco. Si je ne me trompe pas, 119 km parcourus, c'est pas rien. C'est pas rien sur le terrain. Donc, ça sera une équipe forcément très, 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 très difficile à manœuvrer et à déséquilibrer. J'en suis convaincu. Maintenant, voilà, encore une nouvelle fois, c'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France. Et comme disait Coach Moulin, eux, ils vont reprendre lundi. Je vous cache pas que de notre côté, j'ai laissé très peu de trêve à mes joueurs parce que ça arrive que très très rarement pour un footballeur amateur de profiter de cet événement. Donc voilà, on sera prêt, tout simplement.
Guillaume Gonel, vous allez être l'adversaire de Stéphane Moulin dans quelques semaines. Est-ce que vous avez un mot à lui adresser? Évidemment, en termes d'audience, on rêverait que vous le trash-talkiez. On imagine que vous n'allez pas le faire.
Non,
ah si, allez, un petit peu.
Un petit mot
justement pour Stéphane Moulin.
Non, moi, c'est au-delà de notre confrontation, c'est au-delà du match de Coupe de France. C'est bravo coach pour le parcours que vous effectuez. Ça fait, je sais pas si je me trompe, mais pas loin de 20 ans de fidélité à un club. Être capable de dire aussi longtemps au haut niveau, c'est de nos jours, c'est très compliqué et vous le faites. Et donc bravo à vous. Pour nous, tout entraîneur amateur, c'est un honneur de vous affronter. Voilà, donc chapeau monsieur et passez de bonnes fêtes malgré tout. Hein. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous accueillera avec, comme il se doit au stade d'Asnias le 5 janvier.
Eh ben dis donc, après ça,
Stéphane Moulin,
s'ils sont éliminés, reconnaissance du ventre. Hein.
Ben merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre des félicitations comme ça, mais je retourne quand même le compliment parce que éliminer une Ligue 2, j'insiste là-dessus, mais c'est quand même pas rien, et le leader de la Ligue 2, voilà, donc on se connaît pas, j'aurais un immense plaisir à échanger lors de notre rencontre avant le match et après le match, et quel que soit le résultat. Le sport doit prendre la mesure du résultat, donc voilà, moi je suis très heureux et à chaque fois que je rencontre un coach, parce que j'ai l'impression de faire un petit retour en arrière dans un milieu que j'appréciais particulièrement, donc ce sera un immense plaisir d'échanger un moment avec toi au cours de la rencontre.
Guillaume Gonel, coach du FC Dieppe, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci,
vous affronterez donc
Angers
le dimanche 5 à 17h15 au stade des Vertus, si je dis pas de bêtises. C'est ça même.
Ouais,
au sud-est de Dieppe. Merci beaucoup. Stéphane Moulin, on vous garde un tout petit peu avec nous pour parler encore un tout petit peu, peut-être plus de Ligue 1 cette fois, de cette deuxième partie de saison. Jonathan, Damien.
Bah ouais, bonsoir coach. Alors moi la question que j'ai pour vous, c'est, vous savez très bien que donc au partir du mois de janvier, un mercato hivernal qui arrive. Vous avez eu beaucoup de blessés quand même en première partie de saison. Là on a vu le petit El Melali qui revient dans l'équipe contre Nantes. Vous le faites rentrer et qui plante son troisième but en 5 matchs. Est-ce que vous attendez quand même des renforts pour la seconde partie de saison ou vous misez sur le fait que vous allez enfin pouvoir disposer de votre groupe au complet pour finir en trombe la saison?
Non, j'ai vraiment confiance au groupe en quel je dispose. La seule chose que j'espère, c'est effectivement d'avoir le groupe. Alors évidemment, on sait qu'on a toujours des absents, mais là, on a été particulièrement malchanceux sur ce secteur offensif. Donc j'espère vraiment récupérer la majeure partie des joueurs pour pouvoir profiter pleinement de l'effectif, comme ça s'est passé la première partie de la première partie, où oui, on n'avait pas ce problème-là. Et évidemment, je me suis aperçu que les résultats s'en étaient ressentis. Donc, il n'y aura pas de recrue au mercato, sauf cas exceptionnel.
Mais vous avez eu des garanties Oui, excusez-moi.
Oui.
Non, je vous disais, est-ce que vous avez au moins eu des garanties sur le fait de ne pas perdre d'éléments importants cet hiver?
On ne perdra pas de joueurs, normalement. Là aussi, on doit toujours rester prudent dans ce milieu-là, mais notre volonté n'est pas celle-là, et on devrait finir la saison avec le groupe qu'on a aujourd'hui.
Vous ne perdrez pas d'éléments importants, de joueurs importants? Est-ce que vous pourriez perdre des cadres du SCO importants? On parle évidemment de Piqueux, donc on annonce un peu partout.
Au niveau de la direction.
Au niveau du board.
Oui. Ah, je ne suis pas au courant de rien, mais c'est pas prévu non plus.
C'est pas prévu non plus.
Damien. Non, on a quelque chose qui fonctionne, on a envie que ça dure.
Ouais, coach, par rapport au Angers qu'on a vu monter en Ligue 1 il y a quelques années maintenant, et surtout le Angers de l'année dernière et même de cette année, on voit un changement dans le profil des joueurs alignés, dans les ambitions au niveau du jeu, surtout. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Et deuxième question Ismaël Traoré, qui pour moi est vraiment votre pilier, parce que en fait il rend les autres meilleurs autour de lui, et c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, voilà, dans les recrues même que vous avez fait ces dernières années, vous avez changé, j'ai l'impression, de profil de joueur.
Alors, évidemment, la première année on est monté, on a fait un recrutement à 0€. On a pris que des joueurs de Ligue 2 qui étaient en fin de contrat. Donc évidemment, quand on prend que des joueurs de Ligue 2 avec des joueurs de Ligue 2 qui sont montés, bah, on va considérer qu'on a une équipe de Ligue 2 améliorée. Mm-hmm. Donc il est difficile de demander à une équipe qui est composée uniquement de joueurs de Ligue 2 de faire du jeu de Ligue 1. Pas facile, ça peut se faire, mais donc on a commencé comme ça, hein, avec pas de moyens du tout. Une énorme envie, une belle organisation, une solidité défensive. Mais je savais que ce fonctionnement-là ne pouvait pas durer. En tout cas, on ne pouvait pas espérer durer avec cette manière de faire. Donc petit à petit, évidemment, on a commencé à révéler des joueurs, gagner un peu d'argent. Et donc, ça nous a permis d'investir au fur et à mesure sur effectivement un type de joueur différent. Mais vous le savez très bien, dès qu'il y a un peu de talent, ça coûte cher. Même Jeffrey Nedelay qu'on a récupéré à Arsenal, même si on ne l'a pas payé très cher, on l'a payé quand même, et qu'à une époque on ne pouvait pas payer les recrues. Ouais. Donc petit à petit on est allé vers un style de jeu évidemment qui me convient beaucoup plus, mais encore une fois, le talent ça s'achète, et donc on ne peut pas, quand on monte de Ligue 2 en Ligue 1 et qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas inventer des choses qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle des promus. Alors il y a des exceptions parfois dans les promus, ça arrive, mais globalement, vous voyez bien que pour les équipes qui montent de Ligue 2 en Ligue 1, c'est très difficile, et encore plus quand on a 0€ pour recruter. C'est ce qui s'est passé au cours de la première année. Donc tous les ans, je considère qu'on va vers une équipe beaucoup plus joueuse, avec des joueurs beaucoup plus joueurs, beaucoup plus techniques. Évidemment que c'est notre souhait, et qu'on a démarré avec des bases qui me paraissent solides sur le plan défensif, et petit à petit, on a essayé d'améliorer, d'apporter un peu plus de qualité technique à notre jeu, mais pour ça, il fallait aussi être en mesure de recruter des joueurs qui avaient ces qualités-là.
Mais vous êtes capable de faire de très bons coups, et ça, faut encore saluer Olivier Piqueux. J'ai désolé d'insister sur lui, parce que c'est un jeune joueur, faut pas lui mettre trop de pression, mais le petit El Melali, il me semble que vous l'avez recruté directement dans le championnat algérien, et oui. Là, ça a l'air d'être de tout avoir d'un futur très très bon joueur.
Oui, oui, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité et qui, lui, nous a pas coûté grand-chose, parce que c'est ça, il faut essayer d'aller chercher des joueurs qui sont pas encore visibles de tout le monde. Mais c'est un garçon qui arrive avec ses qualités, mais aussi beaucoup de travail effectué sur le plan de la rigueur, sur le plan tactique, etc. Mais c'est pas grave, nous, on a le temps et on prend le temps avec chaque joueur. On prend le temps pour leur amener, c'est notre boulot, c'est mon boulot, de faire progresser les joueurs. Donc on peut pas dire lui il lui manque ça, s'il manque ça, c'est à nous de bosser pour qu'il lui manque moins et qu'il puisse éclore. Et c'est ce qu'on fait avec la majeure partie des joueurs qui arrivent d'un championnat mineur, pour parier sur eux en se disant voilà, avec le boulot, la confiance, etc., ils vont réussir à franchir des caps.
Stéphane Moulin, la dernière question sera pour l'un de nos auditeurs.
J'ai pas répondu pour Isma. Ouais. Oh, oui, je suis tout à fait d'accord. En disant que Ismaël Traoré est notre capitaine, le pilier. Il est arrivé lui dès la montée, la première année en Ligue 1, et il n'a cessé de prendre de la place dans le vestiaire et sur le terrain. Et que évidemment que je suis tout à fait d'accord, c'est un pilier important de l'équipe et du club.
Il t'aurait dû mettre un peu de lumière, tout simplement.
Ouais. Merci Stéphane Moulin. Juste une dernière question, et c'est Stéphane qui va vous la poser. Il est supporter d'Angers. Merci d'avoir attendu au standard, Stéphane. Une question directement adressée à l'entraîneur de ton club de cœur, Stéphane Moulin.
Oui, bonsoir messieurs, bonsoir.
Salut, Stéphane.
Il y a 3-4 ans de cela, il y a 8000 éducateurs qui avaient été sondés. On leur avait posé la question Quel est l'entraîneur de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui fait le plus progresser les joueurs? Et c'est vous qui avez remporté ce trophée. Et je me souviens de cette émotion que vous aviez eue lorsque vous l'avez reçu. C'était après le match de Toulouse, le dernier match à Copa. Donc ma question découle justement de ce trophée honorifique. Quels sont les leviers au quotidien que vous actionnez pour faire progresser vos joueurs?
Ben, d'abord, la première chose, c'est il faut croire au joueur. Le joueur doit sentir qu'on lui fait confiance. Il doit sentir qu'on croit en lui. Il doit sentir que c'est chez nous qu'il va réussir. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, quand on recrute un joueur, on connaît ses défauts, mais on connaît aussi ses qualités. Donc nous, l'objectif, c'est de le faire progresser, évidemment, sur les progrès qu'il a effectués et lui laisser du temps. Voilà, laisser du temps pour ceux qui ont besoin de temps. On a l'exemple de Flavien Thaix, hein, qui a mis 2 ans et demi avant de prendre la dimension qu'il a pris. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a vraiment le travail, parce qu'on bosse beaucoup individuellement avec chacun d'entre eux. Hein, encore une fois, j'insiste, c'est notre métier de faire travailler les joueurs. C'est pas simplement de constater, mais il faut aussi progresser l'équipe, progresser les joueurs. C'est notre boulot. Et on prend un soin tout particulier à faire progresser individuellement les joueurs. Je vous ai dit, d'abord, le gars, il doit sentir que, effectivement, ici, on croit en lui. Ici, il va avoir sa chance. Prendre un joueur pour ne pas le faire jouer ou le mettre en concurrence, c'est pas notre créneau. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses. Alors, je sais pas si c'est des recettes qui peuvent marcher partout. Mais en tout cas, chez nous, effectivement, vous avez marqué, tous les supporters d'Angers, que ça marche plutôt pas mal.
Merci beaucoup Stéphane Moulin d'avoir été avec nous. Merci également Stéphane de nous avoir appelé au 32-16. Merci d'avoir joué le jeu de cette interview croisée avec Guillaume Gonel, le coach du FC Dieppe. C'est votre adversaire en Coupe de France, ce sera le 5. Et si je ne m'abuse, vous affrontez ensuite Nice à domicile avant de vous déplacer à Marseille.
Oui, il y a un autre Algérien qui peut être intéressant, c'est le jeune Boudaoui.
Eh ben, c'est noté, effectivement, à Nice. Excellent. On revient dans un instant dans l'after. On va parler des équipes de bas de tableau en difficulté. On va voir qui vous voyez descendre cette fin de saison. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
21h34 de retour dans l'after. On continue à dérouler le programme de cette soirée. Je vous rappelle que tout à l'heure on parlera du salaire des joueurs, histoire de gros sous. On sera avec Pierre Rondeau, économiste du sport, qui a écrit un article sur où est-ce qu'on gagne le plus d'argent, et surtout en fonction du poste, en fonction de l'âge. Bref, quelque chose d'assez complet.
On va faire les salaires des consultants.
Et très intéressant. Alors on en parlera
un jour.
On en parlera pas. On invitera notre boss, tiens. Quand on invitera notre boss, on fera le CR des consultants. Ok, et ce sera pas moi à la présentation. J'aurai un match à Sochaux à commenter. Mercato Show, ce sera tout à l'heure à 22h40. Et puis en dernière partie d'After, on parlera du Milan AC qui fait revenir Zlatan. Simone Rovera sera avec nous. On parlera également Première Ligue avec Julien Laurence. D'ailleurs, justement, pour parler de Première Ligue, vous dire qu'actuellement, Manchester City, dans les 7 minutes de temps additionnel de la première période, mène 1-0 face à Wolverhampton. Et pourtant, Manchester City est réduit à 10 après l'exclusion du gardien Ederson. Un petit peu plus tôt dans la partie, c'est un penalty de Sterling qui permet aux Citizens de mener 1-0. Penalty transformé en deux temps. On revient donc à notre bonne vieille Ligue 1 avec cette question. Qui voyez-vous descendre après une demi-saison de Ligue 1? Je vous rappelle rapidement le tableau du bas de tableau. Dijon, 16e, 18 points. Metz, 17e, 17 points. Amiens, 18e, avec
un match en moins,
absolument, et 17 points. Et puis, en dessous, il y a Nîmes avec 12 points et Toulouse avec 12 points.
Ouais, il décrochait
un match en moins, Nîmes aussi.
Un petit peu décroché, un match en moins, effectivement, pour Amiens et Toulouse.
Et Nîmes.
Alors,
Nîmes.
Nîmes et Toulouse, ouais. Pardon. Messieurs, autour de cette table, est-ce que pour vous, avec 12 points, Toulouse, notamment, avec 9 défaites de rang, est une équipe condamnée?
Il n'y a qu'à voir, hein. De toute façon, Toulouse, depuis, malheureusement, qui a eu Comboiré, c'est 0,3 points par match. C'est-à-dire que c'est incroyable. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans la Ligue 1. Je crois que Metz a fait mieux une fois avec 11 points à la trêve, il me semble. Ils sont descendus derrière. Mais voilà, c'est sûr que s'il y a une pièce à mettre, on va pas la mettre sur Toulouse non, ce soir. Hein, surtout la spirale dans laquelle ils sont aujourd'hui.
Le problème, c'est que Toulouse, ça leur pend au nez depuis des années. À avoir un président qui n'a rien à battre de son club, à faire des choix plus hasardeux les uns que les autres, à faire revenir Casanova, à mettre Antoine Comboré dans ce bourbier. Et tu sens qu'en fait l'équipe, elle est totalement apathique. Il y a plus rien qui se passe, que soit. Mais tu le sens à tous les échelons du club, direction, supporters, joueurs. Staff technique, donc c'est oui, Toulouse, c'est évident. Après, il y a le cas Nîmes. Alors Nîmes, écoute, pareil, c'est le bordel dans le club. On sait que Blacard, Boissier et le président ne s'entendent plus. Boissier, on se rappelle de
l'épisode cet été. Boissier est plus là, je crois, d'ailleurs.
Ouais, il est parti. Ouais. Mais on se rappelle de l'épisode cet été. Il avait démissionné. Il revient en catastrophe pour faire le mercato d'été avec plus ou moins de réussite. Et puis voilà, ce club-là, de toute manière, son fonctionnement est une anomalie en Ligue 1. C'est-à-dire pourquoi un club qui n'a pas de cellule de recrutement, c'est le seul club de Ligue 1 qui n'a pas de cellule de recrutement. Comment tu fais pour construire une équipe compétitive, surtout quand tu te fais dépouiller comme ils l'ont été cet été. Tu parlais tout à l'heure à Stéphane Moulin de la filière de Clermont. Bon bah là ils ont quand même pris Tchoub, Alioui et Bobichon quoi. Enfin à Nîmes. Donc ouais,
ils ont une filière d'agents à ouais. Nîmes en fait.
Non, ils ont été totalement dépouillés. Donc Nîmes ça va être compliqué et je pense pas que Nîmes puisse avoir un. Voilà, moi j'attends quand même un petit sursaut d'orgueil parce que ils ont 12 points mais ils ont un match en moins s'ils le gagnent. Ils peuvent revenir à deux points des autres. Je sais pas le dire. Mais Nîmes. Moins condamné que Toulouse après, là où c'est intéressant, c'est de parler de Dijon, Metz et Amiens. Alors, pour moi, Metz, ils ont un truc en plus, c'est qu'ils ont un mec devant qui met des buts. Ils ont un numéro 9 dans la course au maintien. Quand t'as un mec sur qui tu peux compter, voilà, pour planter
10 buts, quand il faut, 10 buts pour Habib Diallo.
C'est quand même assez important. Là où Amiens, qui paradoxalement a deux avançants de très grande qualité, au niveau de la Ligue 1, Guirassy et Konaté, c'est une équipe qui joue très bien, Amiens. Elsner, à chaque fois qu'on voit les matchs d'Amiens, on se dit, ouais, il y a de l'ambition dans le jeu, ça, c'est fluide, mais dans les 30 derniers matchs, il y a des problèmes de finition, alors qu'ils ont deux très bons avançants, deux très bons finisseurs, normalement. Ils ont eu pas mal de pépins physiques aussi. Je pense qu'il y a aussi la suspension de Godos de 4 mois, là, avec l'imbroglia, avec la FIFA, qui leur a fait beaucoup de mal. Et l'équipe sur laquelle j'arrive pas à avoir d'avis, c'est Dijon. Parce que je trouve que c'est une équipe médiocre, quand on les voit jouer. Et voilà, je sais pas comment ça se fait qu'ils sont pas plus bas dans le classement.
Le match en retard de Nîmes, ce sera face à Rennes. Tiens, avant de parler justement des trois qui pourraient, on va dire, qui sont un petit peu au-dessus avec 17 et 18 points, on va prendre Nabil qui est supporter de Toulouse. Salut Nabil.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Salut Nabil.
J'ai bien entendu, hein, en fait. Hein.
Les fêtes ont été bonnes. Les fêtes ont été bonnes malgré les résultats.
Ben écoute, de toute façon, hein,
on va pas se mettre le sang à l'envers.
Comme le disait en plateau, c'est pas ça qui va me. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça dérange un tout petit peu quand même.
J'ai vu que tes supporters, je sais pas si tu en fais partie, avaient refusé la proposition de remboursement de l'abonnement proposée par Sadran.
Je suis même intervenu en plateau pour dire que c'était scandaleux. Mais bon. Parce qu'on rembourse pas des supporters. Non, c'est pas ça. La vraie question et ce que les supporters attendaient, surtout, c'était des gestes forts par rapport au club et pas par rapport aux supporters. C'est-à-dire changer certaines choses. Enfin, beaucoup de choses d'ailleurs. Ok, notamment peut-être le staff technique qui entoure Camboiré et peut-être les adjoints aussi de Monsieur Sadran. Parce qu'ils sont là depuis 20 ans. Ils ont joué au club, ils sont là depuis même plus de 20 ans. Mais bon, moi je voulais surtout intervenir par rapport à ce que vous disiez en plateau.
Allez, dis-nous.
Moi, ça va être simple, et puis après vous allez me répondre. Toulouse est dernier du championnat. Toulouse est à 5 points, ok, du 16e et 17e. En ayant perdu 9 rencontres de championnat, vous pensez-vous que Amiens et Dijon tournent comme des avions?
Pas du tout, Nabil. Donc, c'est pas ça qu'on a dit. C'est juste pour préciser. Après, tu réagiras à ça. C'est l'impression laissée par l'équipe. Oui, c'est l'impression dans le jeu.
Mais l'impression, en fait, elle vient du fait que il y a un foutoir, excuse-moi du terme, dans le club.
Les joueurs et
les supporters le ressentent. Mais moi, ce que je voulais dire à l'antenne, c'est que par rapport à ces équipes-là, franchement, On n'a pas grand-chose à en dire. Il faut aussi regarder le calendrier aussi. Et le calendrier vous amène à vous dire, moi qui suis supporter et qui suis cette équipe-là, les autres équipes qui sont au coude à coude avec Toulouse, c'est que sur ces cinq équipes qui sont devant Toulouse, on reçoit quatre équipes. Ouais. On reçoit quatre équipes à domicile. Ouais. On a pris tous les gros à la maison, on a pris des... on n'a pas bien joué ainsi de suite. Bon, bref, ça c'est terminé. Le geste fort, on le voit, lundi dernier, ils se sont mis à bouger un tout petit peu. On recrute un défenseur central, un vrai défenseur central. Alors, vous allez me dire, oui, mais il joue en Norvège, ainsi de suite. Pas de souci, pas de souci. Les joueurs qu'on avait aujourd'hui, c'était des joueurs qui jouent en National 3, c'est-à-dire au plus bas niveau national, tu vois. Et l'équipe de Toulouse végète dans les dernières places de ce championnat. Attention, hein, Toulouse, l'équipe 2 de Toulouse végète dans. Donc on peut pas les programmer à jouer en Ligue 1. Et là où je voulais revenir, je trouve quand même bizarre quand même qu'une équipe de 19 ans qu'on a eue l'an dernier, qui va jusqu'en finale de la Gambardella, qui perd contre Saint-Etienne, et il n'y a pas moyen de récupérer un ou deux joueurs.
C'est ça, c'est curieux. Même, ça, c'est très curieux.
Quand même. Il y a vraiment des soucis.
Tiens, Nabil, donc, j'ai une question
que
pour toi.
Pas mais c'est deux pas joueurs qui venir de la grande
j'ai une question pour toi, Nabil. À Toulouse, on entend beaucoup de supporters, pas seulement à Toulouse, même ici dans les locaux des RMC, des supporters du TFC, Bruno, qu'on embrasse, dire justement, tu parlais un petit peu du copinage en coulisses, de ça. Tout ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de supporters de Toulouse qui en viennent à espérer une descente pour qu'il y ait un gros ménage. Est-ce que tu fais partie de cela et est-ce que tu as la sensation que c'est une vision de la majorité?
Alors non, parce que je fais pas partie de ce paysage-là, parce que ce que vous êtes en train de dire, en fait, on l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu il y a une quinzaine d'années où on est rétrogradé en seconde division, en nationale, ok, où le président c'était pas le même, ok, mais les copains, eux, ils y étaient, parce qu'on parle de qui? On parle de Harry Bagé, on parle de Siret, enfin on parle de ces joueurs qui sont devenus entraîneurs ou qui sont devenus recruteurs pour le TEF, ainsi de suite. On est d'accord. Harry Bagé, c'est pas d'aujourd'hui qu'il joue à Toulouse. Ok, il jouait en 80, dans les années 85, quand la fameuse épopée de Toulouse, ainsi de suite. Donc, on sait que cet entourage-là, ok, fait partie du staff technique, ok. Et quand on s'aperçoit que Toulouse joue les dernières places pendant 4-5 ans, c'est là où il faut sonner la sirène d'alarme et il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que les choses sont mal faites. Et ça ne se dit pas et ça ne se fait pas. Et moi, je ne suis pas de cet avis-là en se disant que si on descend en Ligue 2, forcément, ça sera bien. Je ne pense pas. Et surtout une année comme celle-là, parce qu'une année comme celle-là...
Non, là, avec les droits télé, t'es obligé de rester, là. Si tu veux pas
végéter. Merci beaucoup, Nabil, d'avoir été avec nous.
Un petit message à la France entière. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et à l'équipe RMC, vous êtes fantastiques. Continuez comme ça. Et puis, prenez-moi de temps en temps au téléphone.
Allez, merci pour les rêves. On revient dans un tout petit instant pour continuer à développer ce sujet. Quelles équipes vous voyez dans la charrette pour descendre en Ligue 2 à la fin de la saison? Dijon, Metz, Amiens, Nîmes sont au coude à coude, au même titre que Toulouse. On revient dans l'after.
RMC, l'after foot,
Timothée Mémon. 21h47, l'after, on continue de parler de ces équipes en danger de relégation en cette fin de saison. Messieurs, on a pas mal parlé de Toulouse. Vous êtes tous pessimistes pour Toulouse autour de cette table. C'était pas le cas de Nabil. On lui souhaite évidemment le meilleur. Nîmes a un match en moins contre Rennes et 12 points. Amiens a 17 points. Metz a 17 points. Dijon a 18. Je voudrais m'attarder dans un premier temps, si vous le voulez bien, sur le cas de Metz. Metz, ils ont quand même une fâcheuse tendance. C'est quasiment une spécialité maison de faire l'ascenseur. Est-ce que ça peut jouer dans l'état d'esprit messin, dans l'inquiétude? Alors justement, Metz cette année a fait des travaux structurels, a investi dans son centre de formation, est en train de refaire le stade Saint-Symphorien. Bref, on est en train de travailler pour l'avenir. Une descente ferait très mal, effectivement, encore une fois, on le rappelle, avec cette année où les droits télé vont exploser en Ligue 1. Messieurs, pour Metz, inquiétude, si vous deviez donner un pourcentage de chances de maintien?
50-50.
Oui, non, mais la question par rapport à Metz, elle vaut comme pour Dijon ou comme pour Amiens. Indépendamment du décrochage, on s'aperçoit qu'entre la 3e place et la 15e dans ce championnat, donc les équipes qu'on cite sont concernées, il y a maximum 3 points d'écart. Donc ça se tient. Après, il y a des déficits qualitatifs qui vont se vérifier au fur et à mesure que la saison va avancer, mais on n'est pas dans la même déconfiture qu'avec Nîmes et Toulouse. Après, si tu
attention,
poses la question,
Nîmes, ils gagnent leur match, ils reviennent à 15 points.
Contre Rennes.
Ouais.
Alors, bon, ok, c'est le Rennes qui finit dernier de son groupe d'Europa League, mais bon, c'est quand même un match contre Rennes.
Ouais, bien sûr.
Mais il n'y a pas le même état de déconfiture à tous les étages du club. Moi, je le trouve trop optimiste, presque, notre supporter toulousain. Mais après, si tu me poses la question par rapport à celui qui va prendre la place dans l'ascenseur pour le barrage.
Ouais. Qui tu vois troisième? Ben, clairement, Dijon.
Ouais, Dijon. Ouais, j'espère vraiment que Amiens va s'en sortir en tout cas, oui. Parce que même le nouveau coach,
voilà, c'est pour Jean-Marc de la maison du whisky surtout.
Ouais, mais même au-delà de Jean-Marc, c'est vraiment ce coach qui a quelque chose d'autre. Voilà, moi j'ai eu des échos justement en interne. Ouais, il inspire quelque chose, même au niveau du club, des employés, de tout. Voilà, c'est vraiment une nouvelle ère. On espère qu'il va aller après, au bout de son projet de jeu. Quoi.
Damien, le truc avec Elsner, c'est que on l'a dit plusieurs fois au cours de la première partie de saison, c'est que quand tu vois jouer Amiens, franchement, c'est quasiment toujours des bons matchs qu'ils font. Il y a des problèmes de réalisme offensif dans les derniers mètres. Ils ont eu beaucoup de blessés, ça, il y a pas de problème. Après, le choix qui va devoir être fait par Elsner, c'est est-ce que tu continues avec ce projet de jeu assez offensif où il y a quand même 2-3 espaces au milieu de terrain et où tu t'exposes quand même pas mal, ou est-ce qu'il va falloir un petit peu apprendre à faire des matchs nuls, à prendre un point quand il faut.
Ou est-ce que tu t'ajustes avec le mercato?
Bah, le mercato, le problème, c'est que leur effectif, là, je pense qu'il aura un meilleur effectif en seconde partie de saison. Il y aura moins de blessés. Godos va revenir de suspension. Il y a quand même de la qualité. Après, est-ce que lui, il va avoir l'expérience de gérer cette situation où il risque la descente une année où il faut absolument pas descendre? Est-ce qu'il va un petit peu mettre ses principes de jeu de côté et se dire, il l'a fait, il me semble, en 2-3 fois sur la fin de la première partie de saison, où il va se dire, allez, on ferme un petit peu, c'est 0-0, vaut mieux prendre un point que 0.
Là, pour moi, je le vois pas comme ça.
Ah, il l'a fait pourtant.
Et moi, je pense que ce renie en tant que coach, ce qu'il y a de pire, je pense, en fait. C'est-à-dire que tu vas jouer d'une manière qui n'est pas la tienne.
Que t'ajustes.
Tu peux l'ajuster, mais de changer de tout au tout, là, je ne le vois pas du tout, quoi. Et après, le constat que tu fais pour Amiens, c'est le même constat que tu peux faire pour Metz aussi, où en gros, il y a eu beaucoup de naïveté à chaque fois dans les deux surfaces de réparation.
Mais il y a quand même un peu moins de fond de jeu à Metz.
C'est plus rudimentaire, c'est plus direct.
Metz, c'est une équipe jeune. On compte beaucoup sur Diallo, qui marche un peu sur l'eau.
C'est super naïf, Metz, dans tout. Il faut qu'ils apprennent vite, voilà, parce qu'il serait qu'ils encaissent des buts. Parfois, tu te demandes comment c'est possible. Et puis, au bout d'un moment, peut-être aussi changer de politique. On voit que ça fonctionne pas tout le temps, ça fait l'ascenseur. Peut-être
qu'ils se recrutent
d'un côté d'autres joueurs.
Moi, je trouve que leur effectif est de qualité. Il est jeune. Il leur manque un vrai bon défenseur central en plus derrière. Mais quand tu vois la ligne d'attaque de Metz. Ouais. Quand tu vois la ligne d'attaque qu'ils sont capables d'aligner avec Boulaya, avec Enguet, avec Diallo, je trouve que c'est quand même pas mal relativement aux autres équipes.
Il manque peut-être un peu d'expérience à Metz. Les joueurs d'expérience sont peut-être un peu trop expérimentés, avec tout l'amour que j'ai pour Renaud Coad et le respect que j'ai pour Benjamin Cornier. C'est ces joueurs-là qui sont censés être des cadres.
Qui sont essoufflés. Voilà. Coad, il est
c'est des joueurs expérimentés, mais encore avec du coffre.
Un style de joueur là, pour par exemple, je pense que ce serait parfait pour un
je sais pas si c'est vraiment au milieu qu'il faut
non, mais dans le profil du joueur, tu vois, que ça arrive à 29 ans,
c'est vraiment derrière,
une bonne expérience en Ligue 1, pourquoi pas relancer
pour moi,
dans des clubs comme ça.
Fofana ou Sunzu, là, c'est pas, ça m'inspire pas extrêmement confiance en charnière centrale. Après, au milieu, bon, il y a Maïga qui vient de Saint-Étienne, tu dois bien connaître, Tim. Renaud Coad, moi je trouve qu'il fait une saison quand même correcte relativement à son grand âge. Non, ils ont de la qualité. Après, vraiment défensivement, il faut que Oignon arrive à trouver, soit à avoir une recrue, soit à resserrer les boulons. Et je pense que c'est l'équipe qui a le plus de qualité dans les équipes qu'on vient de citer.
Mais c'est une question difficile. Ça reste une question difficile parce que sur ce cru 2019-2020, encore une fois, c'est très 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 resserré. Normalement, on devrait voir maintenant qu'il y ait un ventre mou, mais pas trop large.
Entre le 12e et
Je l'ai dit, on est entre 2 et 3 points max d'écart entre Rennes, qui est 3e, et le 15e, c'est qui? C'est
Brest.
C'est Brest. Ouais, ouais. Parce que, Brest, 15e. Et je pense que Dijon, Metz et Amiens ne sont pas totalement décrochés aussi par rapport à Brest. Donc ça se tient.
Brest, ils ont 22 points. Ils sont 22 points.
Et l'autre, ils sont à 18.
18, 17.
Mais quand tu reviens sur Dijon, il ne faut pas oublier que Dijon, quand même, je crois que sur les 7 premières journées, ils n'ont pas gagné un match, hein, quand même.
Ouais.
Et quand tu vois là, leur dynamique, elle est complètement inversée, c'est différent. Mmh. Et justement, on était les premiers à dire, non, mais eux, ils vont passer une saison
complète. Ouais, calmaire. C'est clair. Au bout de la troisième journée,
alors, on parlait d'entraîneurs qui font jouer leur équipe, comme Elsner avec Amiens. Pendant des années, Dalloglio a fait jouer Dijon pour se maintenir. Ouais. On ne s'ennuyait jamais à Gaston Gérard. Le changement d'entraîneur, alors, il y a eu l'intermède, évidemment, Camboire pour sauver l'équipe lors des barrages. Le choix Jobard, c'est peut-être encore une fois un choix qui manque un peu d'ambition.
Quand tu vois le milieu de terrain Didier Ndong, j'ai raconté lui, hein, mais c'est un joueur titulaire dans un club de Ligue 1.
Oui, mais c'est pas celui qui est peut-être le plus à montrer du doigt.
À chaque fois, à chaque match, mais pour moi, ça illustre un petit peu, tu vois, les manques de Dijon. C'est un joueur qui avait un nom, on se rappelle, quand il était à Lorient, il est parti à Sunderland pour une somme, je crois, c'était 15 et 20 millions d'euros.
Prix anglais.
Il revient là. Moi, franchement,
quand tu vois que Balmont joue,
je trouve pas bon. Je trouve vraiment pas bon.
Quand tu vois que Balmont joue, alors que tu t'attendais à ce qu'il soit vraiment à la retraite.
Il y a ces joueurs, la Mavizizi qu'ils ont pris en prêt. Il y a le petit Chouillard.
Il y a Mama Baldé qui peut sortir. Chouillard, Cadiz, justement.
C'est bien, mais le problème, c'est que t'as l'impression qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Et surtout, le vrai problème, c'est que, on l'a dit, hein, Metz, leur atout numéro 1, c'est d'avoir un neuf qui met les buts. Là, putain, Julio Tavares, il avance pas, quoi.
Il avance pas. Justement, moi, c'était mon contre-argument pour Dijon, c'est justement cette jeunesse. On a parlé Cadiz, Mama Baldé, Mavididi,
Chouillard.
C'est autant de belles promesses. Est-ce que
tes promesses, tu te maintiens pas comme ça en Ligue 1, parce qu'il faut avoir des chiens de la casse, il faut avoir des mecs qui ont le mort aux dents. Et à un moment donné, oui, par le projet de jeu, mais dans l'état d'esprit et être combatif. C'est pour ça aussi que je parlais de Balmont. C'est parce que Balmont, dans une course au maintien, lui, il va vraiment t'aider. Un Coad aussi à Metz.
Derrière, ils ont écoulé Manga avec l'Otoa. C'est quand même des joueurs d'expérience.
Mais sauf que l'Otoa, c'est le meilleur milieu de terrain. Et c'est pour ça que je pense qu'ils veulent un axial pour faire remonter l'Otoa. Avec Balmont. Ouais.
Alors messieurs, je vous demande chacun de me donner votre trio. Vous êtes tous d'accord pour dire Dijon, Nîmes, Toulouse?
Oui. Vendu.
Ouais, pour moi aussi.
Non, moi je crois que Metz, ils peuvent y aller.
Metz peut y aller.
Barrage.
Alors on a parlé de ces 5 derniers de la Ligue 1. Vous n'êtes inquiet pour aucun des autres?
Attention, Brest, hein, ils n'ont pas une avance si considérable par rapport aux autres numériquement. Après, Brest dégage une impression, notamment à domicile, où tu dis qu'ils vont se maintenir assez tranquillement. Mais ouais, c'est vraiment ces 5 équipes-là. Et puis de manière, il y a des luttes à tous les niveaux, quoi. Si tu exclues le Paris Saint-Germain, au final, tu regardes pour le podium, ça va être une lutte de chien de la casse pour l'Europa League aussi. Et là, je pense qu'on peut avoir une fin de saison pour le maintien un petit peu moins passionnante, parce que je vois bien Toulouse et Nîmes décrocher assez rapidement. Tu vois, et d'avoir leur sort scellé, allez, à une 5-6 matchs de la fin.
Merci messieurs pour cette analyse sur les potentiels relégués de cette fin de saison. Évidemment, on ne le souhaite à personne, mais il en faudra 3, comme chaque année, ou peut-être 2 s'il y en a un qui se maintient effectivement via les barrages. On revient dans un instant dans l'after. On va vous parler du salaire des joueurs. Où est-ce qu'on gagne le plus d'argent? Où est-ce qu'il vaut mieux jouer quand on est milieu, défenseur ou attaquant? On aura les avis tranchés de Jonathan Macardy et de Damien Périnel. On parlera du Mercato avec toutes les rumeurs. On reviendra aussi sur la Serie A et le retour de Zlatan sur la Première Ligue. 2-0 pour Manchester City face à Wolverhampton après 49 minutes de jeu. On revient dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Just because you travel doesn't mean you can't keep your routine. The more obstacles travel puts between us and our well-being, the more we strive to work well. At Westin Hotels and Resorts, we're focused on empowering your well-being. With Westin Meetings, you work and feel your best with nutritious snacks and nourishing smoothies that give you the energy you need to power through any meeting. Don't leave your well-being behind. We give you the choice to get up or to rise. Search Westin online to find out more. Westin, let's rise.